بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم شافه en islam. On avait vu il y a quelques semaines, quelques lundis de cela, on avait introduit ce dua nabawi, ce dua que le prophète عليه الصلاة والسلام avait l'habitude de demander régulièrement à Allah Azza wa Jal. Le dua qu'on vient d'entendre, Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Et on avait rappelé que les duas issus du Coran, ce sont les meilleurs des duas. Tous les duas qui commencent par Rabbana, ce sont les meilleurs des duas. Également les duas qui ont été formulés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont également les meilleurs des duas, les plus profitables pour l'être humain, fait dunya wa al-akhirah. Parce que si Allah Rabbul Izzah a inspiré le prophète alayhi salat wa salam pour qu'il s'adresse à lui par ses paroles, en ces termes, et par le contenu de ses invocations, ça veut dire que c'est la meilleure des choses qu'Allah Azza wa Jal a prévu pour l'homme. Et qu'Allah Rabbul Izzah inspire ce dua au prophète alayhi salat wa salam afin qu'il le formule, et par cette formulation, un, le dua est accepté, et deux, c'est une leçon et un enseignement pour la Umma. C'est la question qu'on peut se poser, vu la proximité qu'il y a entre le prophète alayhi salatu wassalam et notre Seigneur, Azza wa Jal. Notre prophète qui a eu accès au trône d'Allah, Azza wa Jal, lors du voyage nocturne, qui a reçu les salats directement de la part d'Allah, Azza wa Jal, qui a reçu de la part d'Allah ce qu'aucun de notre prophète n'a reçu. On peut se demander, est-il nécessaire pour un homme qui a atteint ce degré de proximité avec Allah, de formuler une demande alors qu'Allah Azza wa Jal, premièrement, lui a déjà donné tout ce qu'il peut donner à un être humain sur le plan spirituel. Et deuxièmement, Allah Azza wa Jal sait mieux que quiconque les aspirations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il y a de son cœur, Allah Azza wa Jal le sait. Donc est-il nécessaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam formule cette invocation pour obtenir l'acceptation de la part d'Allah? Même si le prophète ne demandait pas, ben Allah Rabbul Izzah lui aurait donné, premièrement, première réponse. Et deuxième réponse, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de ce dua, ce sont des faveurs de la part d'Allah. On va dire c'est un degré spirituel qu'il a déjà atteint. Ce qu'il demande, c'est quelque chose qu'il a déjà eu, qu'il a déjà atteint. Mais il y a deux leçons à retenir. Premièrement, le mu'min doit toujours demander à Allah Azza wa Jal. Et ne jamais se dire que moi, sur ce plan-là, c'est suffisant. J'ai déjà eu ce qu'il y a de mieux, je n'ai plus besoin de demander. Ya akhi, demande, soumets-toi à Allah Azza wa Jal. Car dans un hadith, il dit, ad-du'a huwa al-ibad. Le du'a, l'invocation, c'est par excellence l'acte d'adoration. Parce qu'à travers l'invocation, il y a la confiance en Allah, la reconnaissance du ruboubiyya, du uluhiyya, qu'Allah Azza wa Jal est notre Seigneur, l'acceptation, la reconnaissance du fait que nous sommes ses makhlouqs, nous sommes ses créatures, et que nous avons besoin de lui. Et que rien ne peut être obtenu sur ce dunya sans l'ordre et le idhn, sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Et dans le dua, il y a al-inkisar, il y a al-tazallul, al-khudu', il y a le fait de se rabaisser devant Allah Azza wa Jal. Et le seul devant qui on se rabaisse, c'est devant Allah Azza wa Jal. On va voir dans le quatrième point demandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'on ait besoin de personne. Le fait que jamais on ait besoin d'aller vers les créatures ou qu'on soit dans la nécessité d'implorer l'aide d'une créature. Ce qui veut dire que le seul qu'on doit invoquer, le seul devant qui on se courbe, c'est notre Seigneur Azza wa Jal. Donc la dernière fois donc on avait expliqué en résumé mujmalan le sens du dua, on va essayer de voir les explications des commentateurs des ulama de hadith point par point. Al-huda, on avait vu que c'est un mot qu'on retrouve dans hidayah, la guider. Et c'est quelque chose que nous demandons à chaque fois que nous lisons le verset Ihdina as-sirat al-mustaqim. On demande à Allah de nous guider vers le droit chemin. Et en commentaire, les Mufassirin, ceux qui ont commenté les versets, ils posent cette question: pourquoi est-il nécessaire de demander à Allah de nous guider vers le droit chemin? C'est quoi le droit chemin? C'est sirat al-ladina an'amta alayhim. C'est le chemin de la religion, de l'islam, ceux qui ont reçu ce bienfait de la part d'Allah, par opposition au ghayr al-maghdoub alayhim et wal-dallin, par opposition à ceux qui ont reçu le message d'Allah avant, les gens du livre d'avant, et qui se sont égarés ou qui ont couru la colère d'Allah. Ça veut dire que le ihdina as-sirat al-mustaqim, on demande à Allah de nous guider vers l'islam. Les mufassirin posent cette question: pourquoi demander la guider alors que nous sommes déjà dans le droit chemin? Et la réponse de ces mufassirin, c'est demander à Allah Azza wa Jal al-istiqama wa ziyada, demander à Allah encore plus de guider, parce qu'il n'y a pas de limite de la guider. Quand le prophète sallam demande Allahumma inna nas'aluka al-huda, ça nous fait comprendre également qu'il n'y a pas, yani la guider, c'est pas quelque chose qu'Allah t'a donné et qu'après c'est terminé. Il faut demander à Allah Rabbul Izza de nous garder dans cette huda, dans le droit chemin, comme ihdina as-sirat al-mustaqim. Également, il y a différents degrés. Quand tu es bien guidé, ben plus tu augmentes dans la foi, plus tu augmentes dans les a'mal et dans les différentes actions qui vont être citées, ben tu augmentes de guidé. D'où le verset walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui demandent et Allah lui accorde encore plus de guider. Et Allah, sens approximatif du verset, et Allah Rabbul Izzah lui accorde la piété et encore plus de piété. Et on sait qu'entre les croyants, il y a juste à comparer notre niveau et celui des tabi'in et des sahaba et des anbiya alayhimus salatu wassalam, il n'y a pas une piété. Il y a des degrés, des niveaux de piété. La piété d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, n'est pas notre piété à nous. Ça, c'est quelque chose de clair. Ça nous permet de comprendre que la taqwa, ben, c'est par degré. Tout comme le iman, c'est par degré. La hidayah, c'est par degré. Donc, il est de notre intérêt de demander régulièrement ce dua, Allahumma inna nas'aluka al-huda, pour qu'Allah nous accorde encore plus de guider et à l'istiqam, à la fermeté. Rester ferme dans la guider et un dua après. Vous savez, les dua nabawi se rejoignent. Tous les du'as du prophète alayhi salatu wassalam vont dans le même sens. Et parmi ces du'as, de demander la mort avec iman. La mort en lisant al-shahada, al-shahadatayn. Parce que celui qui meurt en attestant la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhal al-jannah, il accède au paradis. Tout ça, ça fait partie de la guider. Et la guider jusqu'à la fin. D'où le verset wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Commentaire de Mufassirin. Dans ce verset, Allah, Rabbul Izza, nous demande de faire son adoration jusqu'à ce que l'ange de la mort, jusqu'au moment où le mou'id s'approche. C'est-à-dire jusqu'à la dernière instant, le mu'min doit rester dans l'adoration d'Allah. Et celui qui est resté jusqu'aux derniers instants de sa vie dans l'adoration d'Allah, c'est l'homme le plus comblé par Allah. L'homme le plus comblé, ce n'est pas celui qui a eu beaucoup d'argent durant toute sa vie. On le dit tout le temps, ça, mais ce sont des haqiqa, des réalités. L'homme le plus comblé, ce n'est pas celui qui a pu avoir Bac plus 9, 12, 13, 14, il devient professeur, maître de conférence, il devient grand docteur. C'est bien, ça, ce sont des bienfaits en rapport avec le dunya, en rapport avec la connaissance de ce monde. Mais le véritable mu'min qui a reçu des bienfaits de la part d'Allah, c'est celui qui reste dans la foi jusqu'au dernier instant de sa vie et qui meurt avec la guidée. Ça, c'est notre dua. Ça, c'est notre amal, notre tamanna. C'est notre souhait à tous de rester dans le droit chemin et de ne jamais chuter. Qu'Allah nous protège de chuter. Qu'Allah nous protège des faiblesses de la foi. Qu'Allah nous protège des waswasa du shaytan alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, les insufflations du diable. Qu'Allah nous protège des égarements dus au al-hawa. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', parce que ce nafs, elle nous amène vers ce qui est mal. Qu'Allah nous protège de toutes ces sources d'égarement. Et qu'Allah nous protège, bien sûr, avant tout, de perdre la foi, de perdre l'iman. Qu'Allah nous protège. Ça, c'est la pire des choses. Qu'une personne soit éprouvée dans son iman, qu'Allah nous protège. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, si je ne me trompe pas, c'est Umar, il disait, lorsqu'il y a une épreuve, il remercie Allah, azza wa jal, pour différentes choses en rapport avec les preuves. Ce qui nous intéresse, c'est que parmi ces doigts de choukr, ces doigts de remerciement, c'est que l'épreuve touche soit ses biens, soit sa santé, soit des personnes dans son entourage, mais que l'épreuve ne touche pas sa foi. Parce que quelqu'un qui est éprouvé dans sa foi et qui commence à douter ou ainsi de suite, qu'Allah le protège. Ça, c'est la pire des choses. On ne demande pas à être éprouvé, mais vaut mieux qu'une personne meure éprouvée par la maladie ou quel que soit le problème, mais il meure avec kalima, avec la shahada. Plutôt qu'une personne meure avec plein de bienfaits, mais avec des doutes dans sa croyance. Nas'alullah as-salamata wa al-'afiya. Et une petite précision, les savants disent, là on rentre d'un point un peu plus technique, la houda, la guider, on peut... Il y a deux sens de la guider. Ça se retrouve parfois dans des termes, dans certains textes, séparés par deux termes ou dans le même terme. Quand il y a la guider qui est citée isolément, ça veut dire que yashmil al-ilmu wa at-tawfiq lil-haq. Quand on parle de guider, c'est la connaissance religieuse et at-tawfiq lil-haq, et qu'Allah t'accepte pour la vérité. La guider, la vraie guider la plus complète, c'est qu'Allah t'accorde la connaissance religieuse et qu'Allah t'accorde la possibilité de suivre cette connaissance qui te mène vers le haq, vers la vérité, qui te mène vers le droit chemin. Et par la connaissance religieuse, et Muhaddithin explique, ben, tu es protégé de l'ignorance, al-jahl, et l'ignorance qui mène souvent vers les manquements. Par la connaissance religieuse, un croyant se protège des pièges de shaitan. Shaitan ne peut pas t'induire en erreur à partir du moment où tu connais ta religion. Celui qui ne connaît pas ou qui connaît très peu, il est souvent induit en erreur par Shaitan. Par la connaissance religieuse également, tu te protèges de ton nafs. Quand le nafs il t'invite vers le mal, ben ton ilm te permet de connaître où mettre les pieds et ton ilm te permet de te rappeler des promesses d'Allah concernant l'au-delà. Et ton ilm, ta connaissance, te permet de te rappeler les mises en garde de ton Seigneur à propos des péchés et les conséquences des péchés. Celui qui ne connaît rien, on prend un exemple par rapport avec le hadith précédent. Prends un exemple, l'adultère, nasallahu alayhi wa sallam, le zina. La personne qui a appris, et quand on parle du ilm, ça il faut qu'on réalise bien, c'est pas forcément un ilm, c'est celui qui a fait 10 ans d'études, qui a un diplôme. Le ilm, on peut l'acquérir en lisant les livres auprès des savants, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de se consacrer uniquement au ilm pour avoir la connaissance. Une personne peut être étudiant, une personne peut être commerçant, une personne peut être artisan ou quelle que soit sa profession. Lakin kulli yawm yata'allam. Tous les jours, il apprend. Et s'il le fait sincèrement, inshallah, il sera parmi les ulama. C'est-à-dire que nous, dans notre compréhension, ilm, c'est uniquement, bon, si à 19 ans, 20 ans, tu quittes ton pays, tu vas dans tel endroit, tu fais 6 ans et tu obtiens un diplôme, certes. On va dire que ça, c'est la manière, la façon la plus complète où, à travers un cursus, tu vas voir tous les djawans et tout ce qui est en rapport avec la religion, concernant le tafsir, le hadith, le fiqh, le wusul, et ainsi de suite. C'est le plus complet. Et théoriquement, une personne qui apprend seule ou auprès d'un savant une heure par jour, en général, c'est un peu difficile de pouvoir cumuler autant de connaissances que ce qui est dispensé durant un cursus de 6 ans, 7 ans ou 10 ans. C'est clair. Maintenant, à notre niveau, d'accord ? À notre niveau, si on n'a pas eu cette possibilité de consacrer 7, 8 ans de notre vie pour le ilm, ça ne veut pas dire que c'est plus pour moi, ça. Ça ne veut pas dire que la connaissance religieuse, ben, c'est pour les fundis, les savants. Pour moi, il n'y a rien du tout. Là, wallah, essaie d'avoir nasib, essaie d'avoir une partie du ilm, en donnant un peu de temps, une heure de temps, ou deux heures de temps, en essayant d'apprendre, yom ba'da yom, avec sincérité, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder ilman nafi'a, la connaissance qui est profitable. Parce que ça ne sert à rien de cumuler plein de connaissances, et si on ne met pas en pratique. Au contraire, tout ça se retourne contre nous, qu'Allah nous protège. Donc, pour revenir, cette connaissance qui est un devoir pour chaque croyant, pour chaque musulman. Et puis, il y a différents degrés de ilm. Le premier degré de ilm, de connaissance qui est obligatoire, c'est la connaissance qui te permet d'avancer dans la vie sans commettre d'erreur. Dans tout ce que tu fais, tu dois connaître les ordres et les interdits. Un exemple, quelqu'un qui est commerçant, c'est une obligation pour cette personne de connaître les masa'il, les règles de jurisprudence en rapport avec le commerce. Imagine quelqu'un, il se déclare commerçant et il commence à emprunter l'argent avec la banque ou avec les organismes de crédit et il avance comme ça. Ben, il est coupable d'une certaine façon parce qu'il est en train de pratiquer, il a une profession, mais il n'a pas cherché la connaissance concernant les limites. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Donc le ilm qui est obligatoire, c'est cette connaissance qui te permet d'avancer dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale et ainsi de suite, sans commettre d'erreurs. Ça, c'est une obligation. Et après, le ilm qui n'est pas obligatoire, mais qui te sera profitable, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui est au-delà de ça, on a compris. Tout ce qui est au-delà de ça, les fada'il, les vertus, le tafsir, les hadiths, ainsi de suite, qui te permettent de raffermir ta relation avec Allah Azza wa Jalla. On prend l'exemple de celui qui étudie les noms d'Allah, les qualités d'Allah. Imaginez son degré de concentration dans la salah. Imaginez une personne qui étudie le Coran, qui étudie le tafsir et qui lit, il lit dans la salah les versets dont il a étudié le tafsir. Imaginez sa dévotion et sa concentration. Imaginez une personne qui va regarder les kutubs de dua et qui va voir le commentaire de chaque dua de la salah. Subhanallah, ça veut dire quoi? Subhan Rabbi al-A'la, ça veut dire quoi? Subhan Rabbi al-Azim, ça veut dire quoi? Il connaît le tafsir d'Al-Fatiha. Il connaît le sens de ce qu'on lit à Tahiyatulillah et ainsi de suite. Ben, subhanallah, imaginez comment est-ce qu'il va être concentré et attentif dans sa salah. C'est-à-dire que ce ilm-là, c'est ce qui te, c'est, ça va te rapprocher plus d'Allah, azza wa jalla. Donc, on reprend cette connaissance religieuse, va te protéger, pardon, contre ton nafs, parce que nous restons des êtres humains. Avec des phases et des cycles. Il y a des moments où on est, mashallah, on se sent en forme spirituellement, on sent qu'on avance et on sent que, mashallah, on se rapproche d'Allah. Mais il y a des moments où on a des faiblesses parce que nous restons des hommes, des êtres humains et aucun être humain n'a atteint la perfection à part les anbiya alayhimus salatu wassalam. Donc il y a des moments où on va faiblir un petit peu. Ben, avec la connaissance religieuse, tu ne te laisseras pas aller. Tu sauras comment te ressaisir pour remonter la pente et rester accroché. Et ce moment de faiblesse, c'est une épreuve aussi, on va dire. Et celui qui reste ferme et qui se raccroche au dîn d'Allah, c'est quelqu'un qui réussit l'épreuve. Et c'est la connaissance qui te permet de ne pas succomber au nafs. Et également, cette connaissance religieuse te permet de te protéger contre la mauvaise fréquentation. Imaginez que dans notre cercle d'amis, ou alors, on va dire encore le cercle d'amis, on peut l'éviter. D'accord? S'il y a des personnes qui t'invitent vers des choses qui ne sont pas bien, ben on ne fréquente plus ces gens. Mais imaginez que le problème vient de la sphère professionnelle. Dans notre travail, vous avez des gens qui vous parlent de choses haram, qui vous montrent des choses haram, qui consomment des choses qui sont illicites et qui ont comme seul centre d'intérêt ben, les plaisirs de ce monde et les choses qui sont illicites. Là, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui fait des péchés dans ton milieu de travail, tu démissionnes. On ne va pas s'en sortir, d'accord? Ou alors, imaginez que parmi tes collègues, ben, il y a des femmes, on va dire très clairement, de très grande beauté. Et voilà, et tu sens qu'à un moment donné, ça flanche parce que nous restons des hommes. Ou alors, si c'est pour une croyante, ben, il y a des personnes, des beaux jeunes hommes, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un contexte qui est défavorable à la chasteté ou à la préservation du regard. Ben, la connaissance religieuse te permettra de te rappeler à chaque instant l'importance du raddul basar, l'importance de la pureté du cœur, l'importance du contrôle de la parole et le muraqabatullah, le fait qu'Allah est avec toi, qu'Allah est au-dessus de toi, qu'Allah te voit. C'est ton ilm qui te permettra de te rappeler de tout ça. Et de cette façon, cette connaissance, bi'idhnillah, qui renforce ta foi, te permettra de prémunir de te protéger de l'ignorance, des pièges de shaytan, de ton nafs et des mauvaises fréquentations. Donc cette dua du Prophète sallam, Allahumma inni as'aluka al-huda, en commentaire donc c'est al-ilm et wa tawfiq lil-haq, parce que la connaissance ce n'est pas tout. Et également demander à Allah de nous accepter pour le bien et pour la vérité. En commentaire, les muhadithines disent également combien de personnes qui ont la connaissance religieuse, soit de notre umma ou alors dans les communautés précédentes, mais qui ne les mettent pas en pratique et qui ne profitent pas de leur ilm. Dans un verset, on parle de certains peuples avant, « Kamathali l'himari yahmiluna asfara ». C'est comme si on prend un âne, d'accord, avec des sacs des deux côtés, on remplit de livres ou de parchemins sur lesquels il y a de la connaissance. L'âne, il porte tout ça sur son dos. Mais est-ce qu'il en prend conscience? Est-ce qu'il en profite spirituellement? Non, il ne fait que porter. Qu'Allah nous protège de cette description qui vient de le Coran concernant ceux qui cumulent mais qui ne mettent pas en application et qui ne font pas profiter également les autres. Ou alors dans l'autre sens, kamin, combien de personnes qui mettent, qui essaient de pratiquer, qui ont de la niaque, comme on dit, qui ont de la motivation, de la bonne volonté, ils veulent bien faire, mais il manque, un, de ilm, et deuxièmement, il n'y a pas dans leur entourage de personnes qui peuvent leur donner les bons conseils, et ils vont mettre des choses en pratique, mais en se trompant. Donc, l'idéal, c'est de demander à Allah Azza wa Jal cette huda, et cette guidée, yashmal, comporte la connaissance religieuse et le tawfir pour rester sur le droit chemin. Hada. Ça, c'est donc un premier dua du prophète, alayhi salatu wa salam. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. La taqwa, on a eu l'occasion de voir pas mal de hadiths concernant la piété dans Riyad al-Salihin, taqwa Allah. Et là, c'est demander à Allah Azza wa Jal an yuwaffiqahu ila taqwa Allah. Qu'Allah t'accepte, qu'Allah te donne la piété et qu'Allah te donne la possibilité de développer la piété et d'augmenter ta piété, de rester ferme, de ne jamais faiblir et que cette taqwa, elle augmente jour après jour. Et ensuite, il y a un commentaire qui, on peut dire, qui englobe un peu les quatre du'as. Il a dit parce que لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ مَقَالِدُ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا وُكِّلَ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ ضَاعَ وَلَمْ يَحْصُلَ عَلَى شَيْءٍ. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient tout. Toutes les bonnes choses sont dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Et donc, l'homme doit prendre l'habitude de demander à Allah Azza wa Jal. Parce que si on compte sur soi-même, et si Allah nous laissait nous-mêmes, entre guillemets, nous débrouiller, ben, on serait dans l'égarement total. D'où le dua, فَلَا تَكِنَّا إِلَى أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ. Que jamais Allah ne nous laisse nous débrouiller tout seul, qu'Allah ne nous livre à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Parce que si l'homme n'est pas guidé par Allah, l'homme se perd. Donc, il est important de demander, quel que soit notre degré spirituel, quelle que soit notre ancienneté dans la religion. Il ne faut pas se dire que ben, ça c'est les jeunes ou les reconvertis doivent demander. Moi, mashallah, j'ai 75 ans, je suis né musulman, je prie depuis l'âge de 8 ans. Demande à Allah Azza wa Jal. Ne considère jamais tout cela comme des acquis. Demande à Allah la guider jusqu'à ton dernier souffle. Et à ziyada, encore plus de guider, encore plus de taqwa. Hada. Et un doua également, comme on a dit, après on peut rester tous les doua nabawi, mais on essaie de rester sur ce doua. Quand on demande à Allah Azza wa Jal encore plus de piété, un doua qui va de ce sens, un doua qui, à mon sens, surtout à notre époque, dans une époque de fitna, dans une époque de trouble, dans une époque de péché, dans une époque où le croyant est éprouvé, voit un petit peu l'orientation que prend le monde. On a compris depuis quelques jours, depuis certaines nouvelles qu'on entend à travers différents continents, certaines orientations que certains pays prennent, on sait pertinemment que la vie des musulmans dans certaines régions du monde risque d'être très complexe, risque d'être très compliquée. Et on a peur vraiment que arrive une situation générale que le mu'min, il vit mavroum, il vit opprimé par des règles, par des lois ou par des personnes qui le détestent et qui fait tout ce qui peut être fait pour le nuire dans sa croyance. Donc, dans des moments aussi difficiles, dans des moments de troubles de fitna, un doua qui nous serait, Wallahu alam, très profitable, c'est Allahumma habib ilayna l'iman. Que la foi devienne quelque chose qu'on aime. Que la chose que nous aimons le plus, ce soit le iman. Et de cette façon, la compréhension inversée, on pourrait dire, c'est que si c'est la foi qui compte le plus pour toi, ça veut dire que ton cœur ne penche pas vers le dunya. Que ce que tu aimes le plus, ça ne sera pas les biens de ce monde, mais la foi. Que tu vis pour ton iman. Tu te réveilles le matin, ton souci, c'est ta foi. C'est pas uniquement ce que tu vas manger, c'est les fins du mois, ou ainsi de suite. Le soir avant de te coucher, ton souci, c'est est-ce que ma foi elle est augmentée. Ça, c'est un ni'ma min Allah. Qu'un croyant, même s'il ne va pas faire des actions exceptionnelles, même s'il ne peut pas faire 12 rakats de qiyam ul-layl tahajjud, mais que son souci principal, c'est comment est-ce que mon iman augmente, comment est-ce que je me rapproche d'Allah, ça c'est un ni'ma min Allah. Petite anecdote, après je vais oublier ce que je dis. Rappelle-moi, je suis sûr que je vais perdre le film, mais ce n'est pas grave. Il y a 2 semaines, on fait la salat de Fajr en ville, parce que c'était à 5h05, donc on a le temps de venir pour la madrasa à 5h30. Mais le timing est un peu juste. Une personne m'appelle de loin, de la voiture. Et c'est un frère qui fréquente un peu la Tani, un peu ici. Il voulait me poser une question. Je veux dire, quelqu'un va lui dire que je dois aller à la madrasa une prochaine fois. Khairan. La semaine d'ensuite, la soirée de Fajr est à 5 heures. Donc c'est un peu plus tôt. La personne me trouve au même endroit, il m'appelle. Là, je regarde le monde, je dis, bon, on peut lui donner 2 minutes. Je pars, tu le vois, ça doit être urgent. Depuis l'autre fois, il n'a pas eu de réponse qu'il me redemande. Je dis, j'ai des élèves qui m'attendent, mais sera rapidement, en 2 mots. Est-ce que c'est urgent? Il m'a dit, c'est très important. Je dis, Yallah, khalas. Dis-moi, c'est quoi? Il dit, comment savoir si je suis dans le droit chemin et si la piété habite mon cœur? Elle dit, waouh! Elle dit, ça c'est pas debout, ça, en 10 secondes. Ça, c'est un chapitre, subhanallah. Je lui dis juste 2 choses. Je lui dis, écoute, akhi fillah, le fait de poser cette question, c'est que tu es déjà dans, mashallah, fi khair. Tu es déjà dans le droit chemin. Le fait que ton souci, ton fikar, depuis tout ce temps-là, et là, tu peux enfin le dire, c'est comment savoir si je suis bien guidé, j'avance, et que la piété, mashallah, j'avance dans la piété ou non. C'est déjà un signe que ton mukh, ton cerveau, hein, ton cœur, on dit plutôt le cœur, tout ce qu'on sent, c'est le cœur, ton cœur, ben, il est habité par ce souci de perfectionnement de la foi. Ce souci, est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Est-ce que je me rapproche d'Allah aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas commis d'action qui m'éloigne d'Allah? Est-ce que si l'ange de la mort reprend mon âme ce soir, est-ce que j'obtiens le paradis? Est-ce que je suis dans parmi ceux qui ont été acceptés par Allah ou alors je suis dans le faux, dans l'erreur? Quelqu'un me rappelait à l'ordre aujourd'hui, dans le cercle familial, on parlait d'un projet à court terme, mais quelque chose qui était un peu prise de tête. Il m'a dit que, de toute façon, qui te dit demain tu te réveilles, tu es vivant? Il m'a dit, waouh, il dit, cache pas les gars comme ça. Il m'a dit, mais oui, punchline. Qui te dit demain tu te réveilles? Il dit, tu es en train de te fatiguer la tête pour un événement qui va venir dans quelques jours. Tu te prends la tête et ainsi de suite. Qui te dit que demain tu es dans le monde des vivants ou des morts? Il dit, khalas, tawakkal ala Allah. C'est bon, donc on passe à autre chose. C'est une réalité. Hadi haqiqa. C'est une réalité. Donc, pour revenir, le fait de se poser ces questions, est-ce que si je meurs là, Allah m'accepte? Est-ce que je suis parmi les bien guidés, les gens qui ont obtenu le contentement d'Allah ou non? Ça, c'est déjà une preuve qu'on est dans le droit chemin, qu'on est dans le vrai. Et le fait que lorsque tu accomplis les bonnes actions, tu te sens bien. Et que lorsqu'il y a un péché, lorsque tu sens que tu te rapproches d'un péché, ben, tu es en mode, tu es sur la défensive. Et puis même si tu as touché ou tu as frôlé le péché, on va dire, nous sommes des êtres humains, mais qu'intérieurement, tu as fait tout ce que tu as pu pour éviter le péché. Ça aussi, c'est un signe que, mashallah, tu es, et qu'en permanence, tu essaies de trouver des wasila, des intermédiaires, c'est-à-dire des actions pour te rapprocher d'Allah. En permanence, tu essaies de te ressourcer spirituellement et de te reprogrammer, de faire des uploads, comme on dit, d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, prendre les dernières versions. Comment est-ce que je peux améliorer mon qiyamul layl, ma lecture du Coran, mes prières, ma concentration? Si tu es dans cette spirale de perfectionnement, c'est que, mashallah, c'est la taqwa qui est en train de prendre place dans le cœur. Donc ça, c'est un dua que nous devons demander à notre Seigneur. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna ou inni. Inni, c'est je te demande. Inna, c'est nous te demandons. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa. Après, il y a les 2 autres points, mais on en est à combien là? 28 minutes, on va s'arrêter. Wa al-afaf wa al-ghina. Voilà, on peut le dire, on va essayer de le faire très rapidement, en 2 ou 3 minutes. Al-afaf, c'est al-iffa min kulli ma harram Allahu alayhi. C'est demander protection contre tout ce qui est interdit. Et ça découle du sens de la taqwa. Ce qu'on avait déjà vu dans la taqwa, c'est ne jamais te mettre dans une situation où Allah serait mécontent de toi. Et quand est-ce qu'Allah est mécontent de toi? Quand tu délaisses tes obligations et quand tu fais un pas vers le haram. Donc le fait de demander à Allah protection contre tout ce qui est haram, ça découle de la piété. Mais les savants disent que ça, c'est pour préciser que le taqwa, c'est un sens global, et pour que le croyant voit que al-afaf, la protection contre les péchés, ça c'est un paramètre essentiel pour se rapprocher d'Allah. Un homme ne se rapprochera jamais d'Allah uniquement avec les bonnes œuvres. Avec les bonnes œuvres, oui, mais également en s'éloignant du haram. Quelqu'un qui prie la nuit et qui jeûne le matin, mais qui consomme de l'intérêt, l'argent haram, ne se rapproche pas d'Allah. Le soir, il se rapproche, La journée, mashallah, il avance, mais après, il fait un péché capital, un péché majeur, qui l'éloigne d'Allah. C'est-à-dire qu'on fait deux pas en avant, deux pas en arrière. Pour se rapprocher d'Allah, c'est l'accomplissement des bonnes actions et l'éloignement de ce qui est haram, d'où le doua du Prophète sallam, wal afaf. Et donc, il faut jamais non plus se dire que moi, je suis immunisé contre l'adultère. Parce que ma barbe a blanchi, j'ai toujours été fidèle à ma femme, je suis quelqu'un de droit, et ainsi de suite. Ne t'estime jamais à l'abri des pièges de Shaitan. Parce que Shaitan, il tourne, et il ne s'arrêtera jamais tant que tu as un souffle de vie. Et à un moment, lorsqu'il pourra t'attaquer, il le fera. Sans hésiter. Il va chercher la faille, il va trouver la faille, il va travailler, il va savoir comment t'approcher, comment t'aborder. Donc toujours demander protection d'Allah Azza wa Jal à l'afaf, donc à l'iffa, min kulli ma haram Allahu alayhi, la protection contre tout ce qui est mauvais. D'où le doua, je dis que j'allais perdre le fil, quand on demande Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, et que cette foi-là, elle embellit et qu'elle devient magnifique dans notre cœur, que cette foi te guide, que cette foi, c'est ce qui compte le plus pour toi. Wa karrih ilayna al-kufra, les péchés, la désobéissance, ben vraiment, c'est des choses qui nous dégoûtent. Tout ce qui est mal, tout ce qui est désobéissance à Allah Azza wa Jal, ben ça doit être des choses dont nous devons nous éloigner. Tout ce qui est mauvais. Ça fait partie des doigts extrêmement importants. Et parmi les doigts également qu'on doit demander, Allahumma arina al-haqqa, haqqa. Oh Allah, fais-nous voir le vrai comme étant vrai. Comme on le dit, période de trouble où parfois, on ne sait plus qui suivre, comment comprendre la religion. Ben, ce qui est bien, ya Rabb, que tu me donnes la possibilité de comprendre et de suivre. Et ce qui est mal, que cela soit clair à mes yeux et que j'arrive à m'en éloigner. Ce sont des doigts nabawi prophétiques que nous devons demander soit en arabe, soit en français. Et le dernier, wa amma al-rina, donc le doua wa al-afaf wa al-rina, al-rina fa al-murad bihi al-rina amma siwa Allah, al-rina 'an al-khalq bihaythu la yaftaqir al-insanu ila ahadin siwa Allah 'azza wa jall. C'est un tel degré de spiritualité qui fait que le mu'mine, dans toutes les situations de sa vie, il s'oriente vers Allah bas et qu'il n'a pas à tendre la main vers les gens ou à solliciter les gens. Et à travers ça, les savants rappellent le hadith dans lequel le Prophète a dit que parmi les qualités d'un mu'min, le terme ne me revient pas, c'est oui, az-zuhdu, en ce sens, az-zuhdu amma fi yadin nas. Le fait que tu n'aies jamais besoin de demander aux gens de l'aide, que ce soit l'aide financière ou autre chose, fais en sorte de ne jamais demander quoi que ce soit à quelqu'un. Faites expérience. Vous avez un bon ami. Il suffit de lui demander quelque chose pour que les relations changent totalement. Vous avez un bon ami avec qui vous entendez bien, maintenant depuis quelques années, depuis longtemps. Dites-lui un jour, j'ai besoin de 500 euros. Tu peux me dépanner, je te rends. Même s'il te donne. Mais après, les choses ne seront plus jamais pareilles. Il va t'éviter de crainte qu'il va me redemander encore et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au-delà de cet exemple, on va dire qu'il est anecdotique, ce qu'on doit retenir, c'est que l'islam fait de toi un homme, une créature qui a sa liberté et qui n'a pas à se soumettre aux hommes. Et ça, c'est la plus grande des libertés, ça. La plus grande des libertés, c'est que tu n'as à te soumettre qu'à ton Seigneur. Et tu n'as pas besoin de te soumettre aux gens, à tendre la main, à demander quoi que ce soit aux gens. Et en conclusion, « والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه الاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل » Celui qui a eu cette qualité de la part d'Allah, cette autosuffisance, ça ne veut pas dire qu'il est fier et orgueilleux, hein. Aucunement. Ça veut dire qu'Allah lui a accordé cette qana'a, cette satisfaction. Ce qu'Allah t'a accordé, ben Allah il te donne la satisfaction. Ça, c'est une qualité, c'est la qana'a. La qana'a, ça ne vient pas forcément avec la richesse. C'est pas, la qana'a, c'est être satisfait de ce qu'Allah t'a accordé. Et il y a des gens qui sont millionnaires, mais ils n'ont pas la qana'a. C'est-à-dire quand ils sont millionnaires, maintenant, ils rêveraient de devenir milliardaires. Et lorsqu'ils seront milliardaires, ils rêveraient de devenir multimilliardaire. Et la seule chose qui va remplir le ventre, c'est en arabe, at-turab. Ça veut dire qu'il y a deux estomacs qui ne seront jamais remplis. Et il y a de le bon sens, c'est le ilm, mashallah. Et là, quand on parle d'estomac, c'est une métaphore. Et comme on dit en français, ou en créole, puisque pas en français, dit ça, que du bouillard, son ventre n'est jamais plein. Il n'est jamais satisfait, il n'est jamais content. Le bon côté, c'est la connaissance. Quelqu'un qui veut toujours, il va continuer à apprendre. Ça, c'est encore plus de ilm et de huda. Et dans l'autre côté, le mauvais sens, c'est celui qui aime ce dunya. Celui qui aime les biens de ce monde, autant il va gagner, autant il voudra. Et autant il voudra, ça veut dire qu'il ne jouit pas de ce qu'Allah lui a accordé. C'est-à-dire qu'il est devenu malade. La cupidité. Ça, c'est une maladie, ça. Et ça, c'est une souffrance. C'est une souffrance parce que tu as 12 000, c'est n'importe quoi. Tu as 120 000 euros dans ton compte en banque, ça dort. Tu ne jouis pas de cet argent. Tu en veux plus tout en étant extrêmement radin. Des gens qui sont comme ça, ils sont pleins nos as. Mais ils ne dépensent pas un euro. Ils sont radins. Et ils veulent gagner plus. Ils sont tellement radins qu'ils ne donnent même pas un petit peu à leurs enfants. Leurs enfants qui galèrent avec le SMIC. Non, ils ne donnent pas rien. Après ma mort, tu vas voir. Et après ta mort, ça va être la fiesta. Ils vont dilapider tes biens, harami, d'une façon que ça te ferait te retourner dans ta tombe, si c'était possible. Autant toi, tu t'es restreint, on n'achète pas ça, on mange simplement. Moi, je vous dis, je connais des gens qui ont les moyens, mais si je vous dis qu'est-ce qu'ils mangent, je vous dis, il ne faut pas déconner. Ils ne jouissent pas de leurs biens. Et ils veulent encore plus la cupidité. Le contraire de la cupidité, c'est al-qana'a. Al-qana'a, Allah t'a accordé soit beaucoup, soit moyennement, soit peu. Mais même le peu, c'est beaucoup parce que ça vient d'Allah. Et ce qu'Allah t'a accordé, tu dis alhamdulillah wa shukurulillah. Tu en profites, tu restes de le halal et tu en donnes également aux gens. Tu donnes sadaqa même de le peu que tu as. Ça, c'est une qualité magnifique, ça. Et Allah, il te donne une tranquillité du cœur que le millionnaire qui est atteint de cupidité, il n'arrive même pas à imaginer c'est quoi la quiétude, la tranquillité, ce bonheur intérieur. Donc, az-zuhdu amma fi yadin nas, le fait de ne jamais demander, le fait d'être satisfait de ce qu'Allah nous a donné et qu'on ne va pas demander aux gens, ça c'est une qualité qui te fait aziz un-nafs. Un peu de difficulté à traduire aziz un-nafs, ça ne veut pas dire que tu es au-dessus des autres, mais que intérieurement, tu es mustaqil, tu es autonome, d'une certaine façon. Tu es autonome sans être fier, mais ce qu'Allah t'a donné, ça te suffit et tu n'as pas besoin. Et du coup, quand tu as cette qualité, est-ce que tu es jaloux? Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de hasad. Cette hasad qui détruit les bonnes actions comme le feu détruit le bois sec. Ça, cette maladie, n'entre pas dans ton cœur parce que ce qu'Allah t'a accordé, tu dis alhamdulillah. Et du coup, ce que tu as, tu dis alhamdulillah. Tu regardes ton voisin, il gagne 4 fois plus que toi, il habite dans une villa avec piscine. Jamais tu seras envieux. Parce que tu dis que ça, c'est son risque à lui, ça. Allah t'a accordé, alhamdulillah, akhi. Allah m'a accordé ça, alhamdulillah, nashkurullah. Ça, c'est une qualité exceptionnelle. Le prophète me demandait, et nous devons demander ça, parce que le prophète me le demandait, parce qu'Allah lui a inspiré ce qu'il faut demander, et parce qu'à travers cette invocation, il y a pour nous, khayr ad-dunya wal-akhira, qu'Allah azza wa jal. On a résumé un peu la fin pour pouvoir compléter ce hadith numéro 71. Qu'Allah, Rabbul Izzah, nous donne la possibilité, premièrement, de demander toujours, de lui demander, de lever les mains. Si on n'arrive pas à lever les mains, demandez de le cœur. Demandez toujours. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa'inni qareeb. On dit un tafsir encore là-dessus. Subhanallah, il y a tellement à dire sur les du'as, sur les invocations, sur le fait d'orienter le cœur vers Allah, subhanallah. Qu'Allah nous guide et nous donne la possibilité de lui demander en toutes circonstances et de lui demander la connaissance nafi'a qui est profitable et l'acceptation pour la guider, pour être dans le droit chemin jusqu'aux derniers instants. Qu'Allah nous accorde à taqwa, la piété, à l'iltizam, la fermeté et à l'istiqama. Qu'Allah nous donne la possibilité de rester éloigné de tout ce qui est mauvais. Qu'Allah nous protège des asbabs de péché. Que jamais nous ne soyons éprouvés par des propositions de haram et que jamais nous ne succombons donc au haram et qu'Allah nous donne la satisfaction de ce qu'il nous a accordé et que jamais on n'a besoin d'aller voir les créatures et que uniquement notre Seigneur nous suffit. Ma tawfiq illa billah. Qu'Allah nous accepte et nous donne la possibilité de mettre en pratique. Petit rappel, n'oubliez pas avant de dormir de lire Tabarakalladhi biyadihi al-mulk parce que cette sourate intercèdera pour nous dans l'au-delà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.